Voilà, on va prier pour que le Seigneur puisse nous aider à laisser la parole de Dieu nous instruire ce matin, cette parole éternelle qui est source de vie pour chacun de nous. Notre Dieu et Père, nous te bénissons parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit. Et Seigneur, c'est cet esprit qui va nous éclairer ce matin sur cette parole que tu nous as laissée, mais qui n'est pas une parole morte, comme un livre qu'on peut lire, mais Seigneur, tu l'animes par ton esprit, tu nous donnes de la comprendre, de l'intégrer, de la mettre en pratique. Tout cela, tu le fais par grâce, et tu mets en nous le vouloir et le faire, selon tes desseins bienveillants. Alors nous te disons, fais-le encore ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, Olivier, dans le verset qu'il a cité, je voudrais juste l'illustrer par le message de ce matin, comme la maison. Quand il a cité le passage où il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc une question de bâtir, hein, il est dans la construction en ce moment. Et donc quand on construit une maison, hein, vous savez que la maison elle repose sur des fondations. Donc la maison, elle est belle, mais pour qu'elle reste belle, il faut qu'elle soit bien bâtie sur des fondations. Et bon, une maison, disons un petit peu de taille, elle repose sur une pierre de fondation. Hein, souvent, c'est la première pierre qu'on pose. Bon, il peut être symbolique, mais il faut qu'elle tienne bien, hein, parce que tout repose dessus. Et la parole de Dieu, la Bible, nous dit que Dieu a établi une pierre de fondation. Et c'est quoi cette pierre de fondation? C'est tous ensemble. C'est ça. C'est ça le christianisme, hein? Sinon, on est dans une autre religion. La Bible dit que la pierre de fondation, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il y a une pierre de fondation, voilà, qui d'ailleurs unit tous les chrétiens, hein, parce qu'après il y a des dénominations, mais ça, on rentre pas là-dedans, on est tous chrétiens, mais on a tous la même fondation, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Et cette pierre de fondation, elle donne la direction, hein, les trois directions, pour construire la maison. Mais cette maison, il n'y a pas que la pierre, hein, de fondation. Il y a aussi les autres pierres. Là, par exemple, il y a une autre pierre. Hein, enfin, ils sont tous les unes sur les autres, hein, pour faire une maison. Et c'est là que Olivier vous a dit ce matin, on collabore. Hein, une collaboration, toutes ces pierres ensemble font la maison. Amen. Vous êtes tous des pierres vivantes. Chacun d'entre vous ce matin, tous ceux qui sont dans le monde entier, les chrétiens, constituent la maison spirituelle, qui est la maison de Dieu. Amen. Maison de Dieu. Alors ce matin, je vais parler d'une pierre qui est là, qui s'appelle la pierre de la croissance. Il y a un tas de pierres, hein. Pierre, le mariage, tout ce qui concerne notre vie en général, hein. Ce matin, je voudrais vous parler de la croissance. Vous savez ce que c'est que la croissance? Vous êtes toujours tous petits, vous avez grandi. Là, ce matin, Michel a dit qu'il y en a qui ont mangé de la girafe, qui ont grandi. Donc on est tous en croissance. Hein. Croissance physique, croissance psychique, hein, dans notre vie naturelle, croissance spirituelle dans notre vie spirituelle. On a tous la croissance, donc il faut savoir comment ça marche la croissance. Hein. Mais si on veut comprendre quelque chose à quelque chose, il faut savoir comment ça marche. Parce que sinon, on risque de construire mal, non pas sur Jésus-Christ. Donc la croissance personnelle, la croissance dans notre famille, la croissance dans l'Église, il faut que ce soit fondé sur une seule pierre qui est Jésus-Christ. Amen. Et si nous ne faisons pas ça, ben nous ne sommes pas des chrétiens. Hein, nous sommes autre chose. Il ne faut pas qu'on bâtisse sur notre principe. Et très souvent, les chrétiens bâtissent sur d'autres principes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le résultat attendu. Si on veut avoir du résultat selon Dieu, il faut bâtir selon Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais évoquer deux façons de bâtir la croissance d'une église. C'est la croissance selon un fraisier. Vous connaissez les fraisiers ? J'ai quelques images à vous montrer tout à l'heure. Ou bâtir comme un moutardier. Vous connaissez la moutarde ? En fait, j'ai oublié de vous donner les salutations du pasteur Gabi et de l'église de Vitry où on était avec Michel dimanche dernier. C'est donc une église Foursquare qui fait partie de notre famille, Foursquare. Donc, qui vous salue dans le Seigneur. C'est un bon moment qu'on a passé avec eux. Donc, croître comme un fraisier ou un moutardier. Je sais pas marqué moutarde. Moutardier. Il y en a déjà qui ont vu le... La moutarde? Il y en a qui aiment la moutarde? Vous savez que la moutarde, c'est le troisième élément le plus important dans la cuisine. Vous me regardez comme ça? Mais c'est vrai. Je l'ai appris comme vous, hein. J'ai regardé sur Internet. J'espère qu'ils ne sont pas trompés. Après quoi? Après le sel, le poivre et moutarde. Il n'y a pas que la moutarde de Dijon, je vous signale. Hein. Il n'y a pas que Dijon dans le monde. Hein. La cuisine indienne, par exemple, est beaucoup basée sur la moutarde. Et vous aussi? Pareil? Pas chez vous? Ah, vous faites exception, là. Piment, piment. C'est avant la moutarde? Dans le monde? Ah oui, mais je parle dans le monde. Les Indiens sont plus nombreux que vous. Hein. L'Inde, elle explose. Voilà. Sera plus grand que la Chine d'ailleurs, enfin plus important que la Chine. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc la moutarde est un condiment, un légume qui est très 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 important dans le monde entier. Et Jésus base ce pavé de croissance là, quand il enseigne ses disciples, sur le principe du moutardier. Alors comme vous, je ne connais pas trop le moutardier, mais je me suis renseigné. Et c'est important ce matin. Alors donc là, vous avez des graines de moutarde. Regardez pas ce qui est écrit en dessous, c'est un truc de cuisine. La graine de moutarde, Jésus l'a utilisée pour expliquer comment nous devons croître, de grandir, hein, comme la graine de moutarde. Dans Matthieu, tout à l'heure, on lira le texte. Et la Bible dit que c'est la plus petite graine. Alors, en fait, c'est la plus petite graine en Israël. Hein, c'est pas la petite graine dans le monde. Hein, mais d'autant plus que toutes les paraboles, hein, parce que c'est une parabole, c'est une image que Jésus a prise, ne représentent pas la réalité. Elles renvoient à la réalité du royaume de Dieu. Mais chaque parabole a sa signification. Donc, il ne faut pas, à partir d'une parabole, vouloir expliquer tout le royaume de Dieu. Voyez-vous ? C'est juste un élément. Puis après, il y a une autre parabole qui explique un autre élément. Parce que si une parabole pouvait décrire tout le royaume de Dieu, il n'y aura plus besoin, il n'y aurait que besoin de la parabole. Or, on a besoin du royaume, pas de la parabole, vous voyez, de l'image. Voilà. Donc là, ça explique la croissance. Et Jésus nous parle de la croissance. Avant d'en arriver là, je voudrais dire que c'est ce que je vais vous dire ce matin. C'est aussi un culte de rentrée. C'est le témoignage de cette église. Donc en même temps, vous connaissez le témoignage de l'église d'Aubergenville ici, l'église d'Aubergenville, en fait, qui, à ses débuts, dans les années 80, on a commencé en 83, à Orgeval avant et en venant ici, mais c'est le témoignage de l'église d'Aubergenville, la croissance selon le fraisier ou le moutardier. C'est aussi un témoignage. Comme hier, on a eu un témoignage superbe de René. Mais c'est aussi le témoignage de Ralph Moore. Ralph Moore, pour ceux qui étaient à la pastorale de Lille, il a parlé aussi de cette réalité de la croissance, puisque lui est à Hawaï. Il y en a qui veulent aller à Hawaï, là? Il y a Ralph Moore là-bas, il y a bien d'autres choses. Il y a aussi Jeunesse en Mission. Et lui, il a le même témoignage. Il nous a donné le même témoignage quand on était à Lille. Et c'est aussi l'enseignement de Jack Efford, qui est notre docteur en théologie, de Foursquare. L'histoire de notre Église commence dans les années 80. Et dans les années 80, il y a une ruée de chrétiens, pas uniquement français, hein. Pratiquement toutes les églises évangéliques, ça a été le cas, mais dans le monde entier, ils sont allés à Séoul. Vous connaissez Séoul? En Corée. On a des Coréens, là. Bonjour. Et donc, ils sont tous allés chez vous, là-bas. Pourquoi? Parce que Yonggi Cho était un homme de Dieu qui a commencé tout petit. Il a demandé un vélo. Il était pasteur, il n'avait rien. Il a demandé un vélo pour aller voir ses paroissiens. Voilà, il a commencé tout petit. Et maintenant, il est la plus grande église du monde. Je ne sais pas combien ils sont maintenant. Ils sont 1, 2 ou 3 millions, je ne sais plus, dans l'église. Enfin, ils ont, je ne sais pas combien de cultes par dimanche. Et tout le monde est allé là-bas parce que la croissance, si on parle de croissance, on ne peut pas avoir plus de croissance que dans l'église de Yonggi Cho. Alors tout le monde est allé. Le point du jour en premier. Tous, ils ont débarqué là-bas. Alors, une chose que Jules n'a pas surtout pas oublié d'emmener, c'était sa bouteille de rouge. Hein. Alors, il l'a cachée sous la table, mais il pouvait pas s'en passer. Il aimait bien manger. Hein. Emmener sa bouteille de rouge à Séoul pour avoir un bon repas arrosé. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Juste pour dire que tous les anciens sont allés là-bas, et quand ils sont revenus, bien sûr, mis en pratique. Croissance, il faut mettre en pratique. Donc, tout de suite, ils ont commencé les églises de maison au point du jour. Et le Seigneur nous avait demandé de quitter une église dans laquelle on était, qui n'était pas basée sur cette croissance-là, et de rejoindre à Orgeval le début d'une église de maison. C'est comme ça que ça a commencé. Ça s'appelle les CCY, Communauté chrétienne des Yvelines, bâtie sur la croissance du fraisier. Un ancien, donc, a eu cette vision qu'on va répandre les églises dans toutes les Yvelines, en très peu de temps, comme le fraisier. Voilà. Et donc, la vision, c'était le fraisier. Et presque tous les dimanches, on parlait du fraisier. Il faut se répandre. Et l'idée, c'était que très très vite, on fasse une église de maison, une deuxième, une troisième, comme à Séoul, quoi. Hop! Et toutes les Yvelines seront remplies d'églises et de chrétiens. Ça, c'était la vision qui était issue de ça. Et je me suis aperçu que Ralph Moore, à Hawaï, il a fait la même chose. Ils sont partis à Séoul, ils sont revenus, ils ont commencé les églises de maison. Ouais. C'était son témoignage à Lille. Mais dans les deux cas, c'était une catastrophe. Que ce soit à Hawaï ou ici. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas la bonne. Elle n'était pas sur Jésus. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Sur quoi on bâtit? Bon, ça c'était notre témoignage du fraisier, mais d'autres pasteurs qui sont revenus de Séoul, ils ont pris les sermons de Yonggi Cho, et mot à mot, ils ont tous dit ces paroles à l'Assemblée, espérant qu'il y aura le même résultat. Hein? Ça n'a pas marché non plus. Okay? Bon. Mais bon, on essaye, hein. Quand on est à des croissances spirituelles, on essaye tout, voilà, mais bon, c'est pas la bonne méthode de tout essayer. Un autre s'est dit, si j'offre les meilleurs services dans mon église, comme à Séoul, toutes les églises, tous les chrétiens vont venir, bonne école du dimanche, tout le monde va venir. Donc on a fait du marketing spirituel, et c'est pas non plus la bonne méthode de croissance. Amen, alléluia. Nous croyons que le Seigneur a des résultats. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde cherche à gagner de l'argent très vite. Vous voyez? Alors maintenant, ils sont déçus de la bourse, parce que la bourse, ça fait le yo-yo. Hein? Mais tout le monde veut gagner très vite. Et les chrétiens veulent aussi gagner très vite des âmes. Hein? Mais ça marche pas comme ça. Hein? Mais on aime bien, on espère bien. Hein? Et ça a été un peu la démarche de croissance des chrétiens. Il y a une recherche frénétique de modèles de croissance. Je vous parle des années 80, c'était Yonggi Cho. Le problème, c'est que on parle très peu du livre. Alors, on parle beaucoup de ces livres du début, mais il y a un livre, et Michel me l'a rappelé, que les chrétiens ne citent pas beaucoup de Yonggi Cho. Vous connaissez les livres de Yonggi Cho? Quatrième dimension, d'autres, etc. Il a un livre qu'il a écrit, justement parce qu'il a vu tous les gens arriver de la planète entière chez lui. Il a écrit un livre au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres. Et là, il explique que ce n'est pas les chiffres qui l'ont conduit à cette croissance, c'est l'attitude de foi qu'il a derrière. Et nous, on voit ce qui frappe les yeux. On voit les chiffres, on voit la croissance, on voit des choses extérieures, mais on oublie ce que l'homme de Dieu a vécu et ce que Yong Gicho a vécu. Ça, on n'était pas là. On était là quand il a eu la croissance et son église qui a grandi, mais pas au départ. Et c'est ça qui est dommage. Et là-bas, c'est la métanoïa, c'est la repentance. C'est le changement de comportement qu'il a eu lui-même par rapport à la foi qui l'a conduit à cette croissance. Dans les années 90, il y a une deuxième vague, une autre vague. Toutes les décades, hein, à peu près, il y a des vagues. C'était quoi? C'était John Wimber. John Wimber, c'était un homme qui est rempli de dons. Dieu lui a donné des dons. Quand il priait pour quelqu'un, personne n'était guéri, il avait des visions ouvertes, etc. Et mon responsable spirituel m'a dit, mais tiens, j'ai des billets, je ne peux pas y aller. Tu peux aller en Angleterre. C'est un homme de Dieu. Pardon? Non, c'était Brighton. Elle a dit, tu peux y aller. Il fait un peu plus que de rallonger les jambes. Tu peux y aller. Ça va être bien. Vous ne connaissez pas Wimber. On y est allé. Et après, avec Michel, on a suivi tout, tous ses enseignements. Et en fait, quand John Wimber est venu en France, parce que bien sûr, il avait tel succès mondial de croissance qu'ils l'ont invité en France, les pasteurs. Et il est venu avec une équipe, ils ont fait tout le tour de la France et tout ça. Et moi, j'ai entendu de mes propres oreilles des responsables en France qui ont dit « Ah, on veut bien que Wimber y vienne, mais on veut pas sa théologie, on veut les résultats. » Parce que John Wimber, c'était quelqu'un qui était basé sur la pierre angulaire qui était Jésus-Christ, était Quaker au départ. Et pendant une heure, il nous enseignait sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu de l'Ade, il a fait l'école biblique, il était soucieux d'être appuyé sur la parole. Et ça, ils n'en voulaient pas en France. Ils disaient, non, ça on en a assez, on connaît tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est les miracles. Hein, on veut la partie des miracles. Qu'est-ce que ça donnait? Rien. Ça fait plouf. Dans les années 2000, il y a eu une autre vague de croissance en Amérique latine, hein, l'Argentine, etc. Et un des anciens de notre église, qui nous a quittés depuis, il était fou de ça, il allait en Amérique latine, en Argentine, tout ça. Et là-bas, c'était quoi l'enseignement? C'était d'aller sur les hauts lieux et prendre autorité sur les puissances pour libérer les villes, etc. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça donnait? Il y a eu plus de problèmes que de croissance. Parce que c'est pas ça qui est important. C'est quand Dieu nous demande quelque chose, on le fait. Mais on ne peut pas prendre autorité sur des puissances territoriales. On peut prendre autorité sur des démons, pas sur des puissances territoriales. Donc il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, que là-bas ils font. Et le livre de John Paul Jackson explique très bien la position équilibrée par rapport à ça. Mais on cherche la croissance. Donc on prend ce qui nous intéresse. Dans les années 2010, cette décade qui démarre, il y a d'autres sources de modèles de croissance qui sont, par exemple, en Ukraine. Tout le monde veut venir, le pasteur Ajay Laja, le Sunday Ajay Laja, hein, qui a la plus grande église en Ukraine. Alors là, c'est super, c'est en Europe, vous vous rendez compte. Et en Europe, on arrive à faire une grande église de croissance et tout ça. Ben, je connais un pasteur qui est fort respectable, que j'aime beaucoup, qui se détruit lui-même et détruit son église parce qu'il veut suivre ce modèle-là, hein, absolument, au lieu de se fonder sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Alors on parle d'une explosion à Chicago, à New York, hein, Bill Hybels, Maxwell et autres, et on rentre dans des modèles de management, comme dans le monde, pour essayer de faire la même chose et trouver la solution à la croissance. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous cherchons la croissance de Dieu ou le Dieu de la croissance? Qu'est-ce que nous cherchons? Il faut que nos motivations soient pures. Est-ce que nous cherchons Jésus-Christ, qui est le modèle de croissance, ou est-ce que nous cherchons la croissance que Jésus-Christ peut apporter? Bien sûr, lui, il peut faire des choses extraordinaires. Et ça nous renvoie à nos motivations. Exactement comme les Juifs à l'époque de Jésus. Jésus disait, il savait ce qui était dans l'homme, Jésus. Et il savait que les gens qui venaient, ils venaient pour les miracles. Il a dit, vous venez pour les miracles. Parce que Jésus faisait des miracles. Et il le savait, il le dénonçait. Il a dit, mais ce qui est important, ce n'est pas les miracles que je fais, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne le chemin vers le Père. Et nous, on est dans la même configuration, on a la même chair que les Juifs. Est-ce que nous cherchons les miracles, la croissance, ou le Dieu des miracles, ou le Dieu de la croissance? Amen. Le problème de la croissance, quand on cherche la croissance que Dieu apporte, au lieu de chercher le Dieu de la croissance, on est très vite attiré par tout ce qui est évangile de prospérité. Que ce soit celui qui est vécu en Amérique latine ou ailleurs, peu importe, c'est un évangile de prospérité. On cherche à être riche, à être prospère, à ne pas être malade, à pas, voilà, au lieu de chercher le Dieu qui donne eh bien, la prospérité et qui nous guérit de toutes nos maladies. Alors on va lire dans Matthieu 13, 31, le passage où Jésus enseigne la croissance selon le royaume de Dieu. Donc dans l'évangile de Matthieu, c'est une toute petite parabole prise en sandwich entre d'autres paraboles. Il parle un tas de paraboles. Hein, il commence au chapitre 13 par la parabole du semeur. C'est aussi une parabole agricole. Hein, où il parle du semeur. Vous connaissez bien cette parabole-là. Donc là, elle est assez longue. Ensuite, après, il parle de la parabole. Alors attendez, je suis en train de regarder. Voilà. D'abord le semeur. Ensuite, il explique la parabole du semeur, ensuite l'ivraie, quelqu'un qui sème dans un champ de l'ivraie, et ensuite, donc on arrive au grain de moutarde, et ensuite après on parle du levain, et ensuite on parle de nouveau de l'ivraie, du trésor caché, etc. Voilà, et donc tout un tas de paraboles qui essaient d'illustrer comment fonctionne le royaume de Dieu. Et là, concernant la croissance, verset 31, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je mets en relation ce passage avec 1 Corinthiens, donc l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27, et je lis dans 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses viles du monde pour confondre, pour celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Le problème de la croissance et du modèle qu'on choisit peut ou glorifier la chair ou ne pas la glorifier. C'est là tout l'enjeu. Et nous sommes poussés par la chair. Nous allons faire bientôt le temps qui purifie, qui est marcher par l'esprit, qui est recommandé par la parole. Mais naturellement, nous sommes poussés par la chair. Et donc nous aimons bien les croissances, les modèles de croissance poussés par la chair, même si nous sommes de très bons chrétiens, c'est quelque chose qui est en nous. Et ça conduit pas forcément de bons résultats. Alors, là, j'ai essayé de vous montrer, si vous le voyez, des petites graines de moutarde, hein, qui, lorsqu'elles sont plantées, donc, elles deviennent, à terme, des fleurs. Donc, peut-être vous avez vu de la fleur de moutarde, hein, parce qu'elle est beaucoup utilisée pour donner de l'azote au sol. Donc, quand à un moment donné, vous savez pas quoi faire avec le sol, là seulement, vous faites la moutarde, moi j'en ai fait, et ça donne de l'azote. Puis l'année d'après, vous avez de bons résultats. Donc, graine de moutarde, elle est bien connue, parce qu'elle sert à l'assolement des sols également en France. Et la cueillette des moutardes. La cueillette de la moutarde, voyez-vous, c'est un arbre. C'est-à-dire, il faut grimper, dans le meilleur des cas, hein, c'est 1,80 m, 2 m de haut, pour cueillir les graines de moutarde et en faire de la moutarde après. Donc, vous voyez ici la cueillette du moutardier. Alors, il y a un cycle de croissance, hein, et c'est ce cycle, pas uniquement dans cette parabole, mais il y a d'autres paraboles qui parlent du même cycle de croissance d'une semence. Okay, donc, vous avez ici la semence, hein, qui est mise en terre, la naissance ici, de la mort de la graine pour donner la vie au germe, qui donne la pousse, qui donne une fleur, et cette fleur, après pollinisation, devient un fruit. Bon, là, c'est un haricot, c'est pas grave, mais c'est le même principe, parce que j'ai pas trouvé la plante de moutarde. Et ensuite, après, il y a un cycle de reproduction. Lorsque le fruit retombe en terre, il redonne une nouvelle semence et une nouvelle plante. Ça, c'est le développement de la plante à partir d'une semence qui est un nouvel individu. Pourquoi ? Parce qu'il passe par la mort de la graine. Okay ? Chaque graine vit sa propre histoire. Hello ? Oui ? Donc déjà, quelque chose qu'il faut retenir dans le modèle du moutardier, qui n'est pas unique moutardier, qui est commun à tout ce qui est semence par des graines, c'est que chaque individu doit vivre sa propre vie. Vous voyez, Yonggi Sho a vécu sa propre expérience. On peut bien sûr prendre modèle sur lui, sur la façon dont il a vécu sa foi, etc. Mais on ne peut pas, comme ça, prendre ses résultats pour essayer de faire la même chose sans passer par le même processus. Là, c'est un processus de croissance, hein, qui, ensuite, après, par reproduction du fruit, redonne une nouvelle plante. Ça, c'est le principe du moutardier, mais aussi des autres. Le moutardier, Jésus le prend particulièrement parce qu'il veut montrer que d'une graine insignifiante, la plus petite en Israël à ce moment-là, et ça donne le plus grand légume qui puisse exister, à tel point que les oiseaux peuvent même nicher dans ses branches. Je reviendrai tout à l'heure sur cette signification symbolique. Là, vous avez une autre manière circulaire de montrer la même chose. La semence, qui est le fruit du moutardier, qui tombe en terre, qui donne la fleur. Vous avez la fleur ici que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui donne dans la fleur la reproduction par le pollen du pistil, qui descend dans l'ovule de l'ovaire et qui la féconde pour donner un fruit, qui ensuite peut donner. Vous voyez, il y a une transformation. Donc il y a quatre étapes principales. L'étape de la semence, la naissance et la pousse, la fleur et le cycle de reproduction et qui donne le fruit qui doit être remis en terre pour mourir et redonner une nouvelle pousse. Donc, vous voyez que c'est pas immédiat, la croissance n'est pas immédiate, c'est un processus, un cycle dans lequel il faut entrer, que Jésus mentionne, et c'est pour ça que Dieu en un instant peut faire des choses, il peut faire des miracles en un instant. Okay. Mais la croissance est un processus, comme la croissance naturelle d'un enfant et comme la croissance d'une plante telle qu'elle est décrite dans cette parabole. Donc la naissance, la végétation, la fleur, la maturation, le fruit, et ensuite la reproduction. Dans Foursquare, on a un modèle de croissance qui est, j'ai pas amené là, qui est une roue, hein, qui permet à chaque église de se repérer là où nous sommes. Et Foursquare France, alors nous, au niveau de l'église ici, on est déjà un peu plus avancé parce qu'on a commencé il y a 15 ans ce cycle. Pour Square France, on en est aux deuxième phase, hein, de faire des fleurs, enfin de l'affermissement, parce qu'on est très jeune au niveau national, et c'est pour ça qu'on est en train de travailler à la question à la prochaine pastorale. Notre leader spirituel, qui est revenu de Séoul, et qui a eu cette vision du fraisier, c'est une vision qu'il a eue, on va faire les communautés chrétiennes des Yvelines, en très peu de temps, nous enseigner comment on devait construire des églises de maison selon le fraisier. Il y en a qui savent comment le fraisier il se multiplie, la croissance du fraisier. Pardon ? Par des rejets, c'est pas joli le mot rejet. Je dirais par des stolons, bon, c'est plus joli, c'est la même chose. Ça s'appelle un stolon. Voilà, dans la campagne, on dit les rejets. Et dans le langage scientifique, c'est des stolons. Mais c'est pareil. T'as raison, Jean-Claude. Donc le fraisier, c'est pas du tout le même cycle. C'est effectivement très rapide. Pas besoin de saison, rien. C'est un forçage, ça s'appelle le marcotage. Donc en horticulture, là j'ai fait un copier-coller, hein. Le marcotage consiste à forcer, voyez-vous, c'est forcer quelque chose. C'est pas laisser les choses naturelles se développer. Forcer la mise en contact d'une partie aérienne d'une plante, c'est le stolon ou le rejet, avec un substrat humide, bon c'est n'importe lequel, vous pouvez le faire sur du coton avec de l'eau, hein, bon, jusqu'à l'apparition de racines. On peut alors sevrer la marcotte, c'est-à-dire séparer la plante aérienne avec ses nouvelles racines de la plante mère. Donc là, il y a la plante mère, donc il y a une mère, et il y a des petits qui sont marcotés. Après, vous coupez, tac, et le fraisier, il se développe. Cette façon de croître, c'est par clonage. Hein ? Simplement la mère, et les autres sont clonés. Vous voyez la différence avec la précédente, Tardier ? Et c'est vrai que toute cette vision-là était à la base des CCY dans la pratique. C'est-à-dire qu'au bout, parfois d'un an, ils disaient « Hop, il faut séparer, il y a les anciens qui partent, qui refont une nouvelle église de maison, etc. » C'était comme ça. Et en l'espace de 4 ans, on avait 4 églises de maison, Orgeval, à Mantes, à Vésinet. Bon, ça, c'était super. Et derrière, ils passaient très vite, à Saint-Martin. Au bout de 2 ans, on devait déjà en faire une à Rony, machin. Enfin, c'était vraiment le stress. Hein. Il fallait aller très vite, faire des églises de maison partout. Ok. Vous savez, moi à l'époque, j'étais pas critique là-dessus. Je suivais un leader et on le suit, et puis voilà, c'est tout. Le problème, c'est au bout de 15 ans, c'était une catastrophe totale. Zéro, plus rien. Il n'y a plus aucune église de maison. Au bout de 30 ans, il n'y a toujours pas d'église de maison. Ces églises de ville, hein, celle de Montesson, c'est une église comme la nôtre, église publique. Il y a juste celle de Vauréal, mais en plus ils sont dans une maison de quartier, donc c'est pas dans une maison. Hein. L'idée c'était vraiment dans la maison. Il n'y a plus rien, zéro. La belle vision du fraisier dans les Yvelines, zéro. Zéro église de maison. Allô ? C'est un peu déroutant. Et c'est la réalité parce que eh bien, le modèle de croissance n'est pas le moutardier, c'est le fraisier. C'était le fraisier. C'est pas le bon modèle sur lequel on reposait en termes de vision. Bien sûr, ça va très vite. Bien sûr, en très peu de temps, vous pouvez faire tout un tas de fraisiers. Mais c'est pas le modèle que Jésus a présenté. Parce que l'homme est grisé par ce qui frappe les yeux. Mais par la vitesse de croissance, par le nombre qui augmente, etc. Mais le règne de Dieu est basé sur la croissance du cœur. Tout est basé sur le cœur. Croissance du cœur, changement du cœur. Dieu s'intéresse aux gens. Il ne s'intéresse pas au nombre de gens. Alors ? Alors bien sûr, les églises qui sont basées sur la croissance type fraisier, ils disent, oui, mais ils enfourchent la raison d'évangélisation. Ah, il faut évangéliser parce que tout le monde veut être perdu, le Seigneur revient, tout ça. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. Parce que déjà, ce n'est pas nous qui pouvons sauver qui que ce soit. Et de toute façon, ce n'est pas l'intention de Dieu. S'il veut sauver, il peut sauver très vite tout le monde. Ce qu'il veut, c'est s'intéresser aux gens. Il s'intéresse aux gens. Dans Genèse, d'abord, chapitre 1er, verset 27, on voit les motivations de Dieu pour l'existence humaine. D'abord, il dit, Dieu a fait l'homme et la femme à notre image. C'est-à-dire, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes pris dans cette image, nous sommes un avec Dieu. Dans l'idée de Dieu. Ensuite, il dit, pour régner sur la terre, pour nous régnons. Dieu avec nous veut régner. Jésus-Christ va régner avec nous. Donc c'est un corps, voyez-vous. Nous ne sommes pas des individus. Et troisièmement, c'est le mot multiplié qui vient à la fin. Donc ce n'est pas au début. Dans Jean 12, 24 aussi, un autre passage qui nous fait réfléchir là-dessus. Jean 12, verset 24, qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. pas le grain de sénevé, mais c'est le même principe pour le blé. Il fonctionne de la même manière. Il faut mourir. Jésus devait mourir. Nous, nous devons mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à notre vieille nature. Et alors, nous pouvons croître. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, il y a un autre enseignement de Jésus qui dit, si... Alors, attendez, je suis dans Jean. Matthieu 16, 24. Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il meurt, qu'il renonce à lui-même, doit entrer en terre et mourir, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et où le principe de la croissance du royaume, selon le royaume, c'est par la semence de la graine et pas par le marcottage en surface, où on essaye très vite de faire la même chose que le voisin qui a réussi, que nous on veut réussir aussi. Moi, je trouve une grande sagesse parmi les serviteurs de Dieu en France qui sont allés voir le réveil du Pays de Galles, qui a commencé en 1905 jusqu'en 1910. Des gens comme Rubin Sayens, comme d'autres, enfin les anciens grands-pères de Nicole et tout ça. Ils sont allés là-bas, mais ils ont construit des choses qui durent. Nos gens, ça dure. Vous, ça dure. Et vous, les églises de maison, ça n'existe plus. Mais ce qu'ils ont construit, c'est quelque chose qui dure. Même si on peut le critiquer, tout est critiquable. Mais c'est des choses qui durent. Quand on construit, parce qu'ils ont adapté ce qu'ils ont vu au Pays de Galles. Ils ne l'ont pas copié comme un clone. Ils ont fait des choses spécifiques au pays par rapport au modèle de croissance qui est celui du moutardier. Je vais vous donner 7 leçons très rapides sur ce que nous enseigne la croissance par la graine, par la semence du moutardier. La première leçon, c'est que la semence doit mourir avant de renaître. Elle doit mourir. En 98, quand on a vu que c'était la faillite des églises de maison telles que nous on le vit, pas telles que Yom Kippour le vit là-bas, il a demandé de se repentir, et on s'est repenti pendant 5 semaines. C'est pour ça que cette église a un petit peu une particularité, c'est que tous les ans, on se revoit en fin septembre, c'est pas pour fêter un pèlerinage ou quoi que ce soit, mais nous croyons à la repentance, et que nous commencions l'année dans la repentance, en demandant au Seigneur de nous conduire dans les programmes, de nous conduire dans les choix, de nous conduire dans les activités, pour pas que nous fassions, nous, ce que nous avons envie de faire. Que notre croissance soit basée sur le modèle du Seigneur. Et donc, nous vous convoquons en fin septembre, pendant une semaine, tous les soirs de 21h à 22h30, à prier, à vraiment nous placer devant le Seigneur dans cette perspective. Un peu comme les Juifs le font avec la fête des tabernacles, hein. Pour se rappeler qu'ils étaient nos sous-détentes, etc. Voilà. Nous, on veut se rappeler que notre fondation ici, d'église Aubergenville, était basée sur cette mort à nous-mêmes avant de recommencer. La deuxième leçon, c'est qu'il faut accepter les petits commencements et la faiblesse de notre chair. Il y a maintenant plus de 14 ans, on rentre dans la 15e année, je me suis tenu ici avec Michel, on a dit, moi, et ma maison nous serviront l'Éternel. Qui veut nous suivre? On a commencé tout petit, à deux, et avec nos enfants. Alors que l'église était remplie, mais il fallait faire un choix. Parce qu'on a dit non, on va changer de vision, on va passer de la vision de la croissance par le fraisier à la vision de la croissance par le moutardier. Bon, on l'avait pas dit sous cette forme-là, mais c'était ça. On veut suivre Dieu dans ce qu'il a prévu pour nous. La troisième leçon, c'est qu'il faut connaître son appel. Quel est ton appel? Tu connais ton appel, Tom? Eh oui, il faut le chercher. Mais tu as un appel. Dieu a un plan pour toi. Moi, quand j'ai reçu mon appel, je suis mon appel. Je suis pas depuis que je suis converti, je suis mon appel. Dieu m'a dit, tu continueras à être ingénieur et tu me serviras. Ben, parce que moi, je voulais te servir à plein temps. Il dit non, il faut avoir des choses claires. Et ça m'a permis de suivre et j'ai bien fait parce que avec le retour, je sais que j'aurais pas du tout eu la même vie que j'ai maintenant, que ça aurait été une catastrophe. L'Église a un appel ici. c'est s'occuper des familles. Ceux qui veulent des familles solides, des familles dignes, des familles dans l'excellence, des familles qui sont restaurées, bienvenue ici. Non pas parce que nous on est là, parce que le Seigneur il nous a donné cet appel. Et on veut rester dans cet appel. On veut pas. Bien sûr, on pourrait s'occuper des drogués, de la radio, de la télévision, de tout ça, etc. Mais ce n'est encore. Chacun doit faire selon l'analogie de la foi. Et nous, on va s'occuper des familles, parce que le Seigneur nous a donné cet appel. Donc il faut connaître son appel. Quatrièmement, il faut accepter un changement lent du cœur. Le cœur, il ne change pas comme ça vite. Okay ? Parce que nous sommes des personnes, Dieu nous respecte. Il respecte notre arrière-plan, il respecte notre héritage, il respecte tout ce qu'on est, il le sait. Et on a besoin des uns des autres pour nous aider à sortir des schémas du passé pour aller dans les schémas nouveaux. C'est une collaboration active entre nous. Allô ? Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, c'est lent. Pas quick. Ok. Oh, les démons, c'est vite chassé, mais transformer un cœur, c'est plus long. Il faut changer les mentalités, il faut du temps, il faut des années, il faut pas toute une vie. Okay. Mais on est là pour ça. Dieu nous a appelés pour ça. Donc on est là à votre disposition et on va commencer le temps qui purifie dans cette idée-là, pour aller plus loin, pour qu'on soit encore plus changé, pour qu'on soit plus transformé, pour qu'on soit plus libre, pour qu'on soit plus capable d'entrer dans notre destinée. Allô ? C'est ça le torrent qui purifie, c'est rien d'autre. Hein. Vous ne faites pas beaucoup d'idées derrière, c'est simplement un moyen qui a été fait par Jack Efford en particulier, qui est un homme très très équilibré sur le plan théologique, qui a voulu faire une méthode de délivrance, pas là-bas que je te pousse, comme on en voit, nous on a connu une méthode de délivrance, mais vous pouvez être délivré, puis derrière c'est autre qui revient, vous pouvez empirer. Et C.S. Lewis disait, un chrétien, ou il devient pire, c'est grave, ou il devient meilleur. Moi je préfère qu'on devienne meilleur. Il y en a qui sont avec moi dans ce coin-là ? Ah ben, allons-y. Hein. Le torrent qui purifie va nous aider à être meilleurs. Ben, ceux qui veulent être meilleurs, ben, ils viennent. Bon, s'ils viennent pas, il y en aura un prochain train. Hein. Parce qu'on va faire plusieurs trains. Hein. On va commencer un premier train le 28 septembre, après on va commencer, parce que c'est la base. Hein. De toute façon, on n'a pas attendu le torrent qui purifie pour le faire. On avait les livres de Neil Anderson. Le problème, les livres de Neil Anderson, notre libraire ne peut plus les avoir, ils sont épuisés. Et, d'ailleurs, c'est exactement le fondement de Kingdom Faith, puisque quand j'en ai parlé avec Colin Urquhart, il avait fait venir Neil Anderson dans son église, qui a prêché exactement la même chose que celui-là prêche, sauf que Neil avait déjà fait toute la littérature, tous les cahiers, les carnets, etc., donc il les a utilisés. Donc vous voyez, on est sur les mêmes fondements. Tous les gens qui fondent la croissance sur Jésus-Christ et sur le royaume, ils tombent sur les mêmes choses, fort heureusement, parce que sinon ce serait grave. S'orienter, donc accepter le changement lent du cœur. Il peut s'accélérer, mais il est toujours dans un cycle de transformation et nous avons besoin de rentrer là-dedans. Cinquièmement, il faut que nous nous orientons vers les gens et pas vers le nombre. Et ça, c'est notre vision. On va être orienté sur les gens. Tourner vers les gens et pas vers le nombre, c'est une conséquence. Dieu bénit. C'est Dieu qui ajoutait à l'Église chaque jour. Amen. C'est pas la méthode de croissance que les apôtres avaient utilisée. C'est Dieu qui ajoutait chaque jour, qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres. Sixièmement, il faut accepter les saisons. Il y a des saisons. Il y a le printemps, il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Dans la vie naturelle, dans la plantation, il y a des saisons. Et nous sommes dans des saisons. Mais ce que je peux vous dire, la bonne nouvelle, c'est que l'Église ici de Bergerville est dans la saison de la croissance. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, bah, tant mieux pour vous. On a beaucoup souffert, mais là c'est fini. Parce que Dieu nous a appris des choses, et là on construit dessus pour aller plus loin, et donc là on est dans le temps de la croissance et de l'affermissement. Septième raison, septième compréhension, c'est marcher par l'esprit et pas marcher par la chair. Et ça, c'est le torrent qui purifie. C'est la base du torrent qui va nous apprendre à marcher par l'esprit et non par la chair. Rien ne peut remplacer l'esprit de Dieu. Rien. C'est l'esprit de Dieu qui fait croître. Si c'est autre chose, danger. Hein. On peut se méfier des résultats. Les résultats de cette croissance seront spectaculaires. Comme le moutardier. D'une petite semence insignifiante, ça va devenir un grand arbre. Mais il sera... C'est paradoxal. Parce qu'il est spectaculaire, mais spirituellement. Mais pas à la vue des autres. Voyez-vous, c'est ça, avec les mystères du royaume. Parce que les disciples disaient, mais explique-nous les mystères. Jésus dit, vous connaissez les mystères. Mais eux, ils ne le savent pas, donc je leur parle en parabole. Mais les mystères du royaume, c'est que tout ce qui est spirituel, ça ne se voit pas. Pourtant, ça existe. Parce que ça se voit avec le cœur. Allô? Et c'est ça qui trompe les serviteurs de Dieu, qui cherchent la croissance par le nombre. Hein, qui est une référence pour eux, la croissance par le nombre. Non. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Parce que le grain de CNV, il est petit, il donne un grand arbre, mais finalement on ne le voit pas parce qu'il y a d'autres grands arbres. Mais pour Jésus, lui, c'est plus important le grain, la moutarde, que le baobab. Vous voyez? Parce que ça part de tout petit. Et ça devient très grand parce que c'est Dieu qui fait croître. Parce que c'est la parole de Dieu qui agit. Alors comme je vous le disais, ce que je viens de vous dire, c'est le témoignage de l'église d'Aubergenville. En 83, on a démarré à Orgeval. En 85, donc 2 ans après, on avait déjà 4 églises de maison qui ont été marcottées, entre autres à Saint-Martin, et j'ai été propulsé dans cette responsabilité. Et en 98, l'église a cassé totalement, il n'y a plus que des cendres, des relations brisées, des familles divisées, des personnes détruites, point du jour a suivi dans la chute, ouais, c'est pas très glorieux tout ça. Et donc le Seigneur nous a dit, non, il faut une métanoïa, il faut une repentance générale. Et on a commencé en septembre la repentance, et nous avons recommencé tout petit. Et après 5 semaines de repentance, le Seigneur nous a conduits à refonder l'église, l'église protestante d'Aubergenville, qui est enracinée dans cette semence qui doit mourir et renaître. Et sur l'évangile Foursquare, qu'on a anticipé parce qu'à l'époque on ne connaissait pas, qui est un évangile stable, 4 côtés. C'est plus stable que 3, bien que 3, ça tienne un tabouret, mais 4, c'est stable, équilibré, inébranlable, complet et universel. Et pendant cette période, 98, on a beaucoup été influencé par Jack Efford, qu'on entendait à la télévision, qui nous a beaucoup édifié parce qu'on a dit, ah, cet homme, il a quelque chose au niveau de la croissance, il a touché le point important. Et il nous a dit, quand on était en Californie, n'allez jamais dans des séminaires de croissance. Jamais. Mettez pas les pieds là-dedans. Jamais. Mais il est formel, catégorique. N'allez jamais dans les séminaires de croissance. Parce que vous sortirez déprimé. Et tout ce que vous apprendrez, vous ne pouvez pas le mettre en pratique. Et il a raison. Mais il faut beaucoup de sagesse pour dire ça, vous voyez. Il faut beaucoup de recul. Hein. Parce que tout le monde, on est enflammé. Ah, oh, on va en Ukraine, c'est formidable. Il y a 1 million de personnes là-bas. Ça va tout seul. Quel est le résultat aujourd'hui, au bout de 15 ans, de cette vision du moutardier ici à Aubergenville, mais des relations restaurées, des familles épanouies, une église dynamique, adorante, une école de formation pratique de disciples, de leaders, une ville qui commence à être bénie par les valeurs de Dieu, et une société qui est influencée par Dieu, par des ambassadeurs de Christ. Et ça, je le dis pas pour nous encenser, c'est une réalité, vous le savez. Donc, voyez, les résultats sont différents quand on s'appuie sur Dieu. Le problème, c'est que c'est pas spectaculaire, parce qu'Aubergenville n'est pas connu, et puis on veut pas être connu. Mais il se trouve qu'on connaît pas en France Aubergenville. Mais on vit des qualités relationnelles de qualité. Et c'est ça qui est important. C'est ce que nous vivons qui est important. C'est nos relations. C'est la qualité de nos échanges qui est important. Et je le vois après les cultes. C'est très très fort. Et je vois bien la différence entre ce qu'on a connu avant. C'était totalement superficiel avant 98. Et ce sont des vies qualifiées pour le royaume de Dieu, des vies qui entrent dans leur destinée. Et c'est ça qui est important pour Dieu. Amen. Avec le recul, nous voyons la différence entre le fraisier et le moutardier. Donc préférons le modèle du moutardier, celui que Jésus nous donne, à celui du fraisier. Le modèle de Jésus, qui est l'être, de travailler sur les racines, et pas celui du monde, qui est de donner des objectifs. À la fin de l'année, vous devez être temps. À la fin de l'année, vous devez avoir tel chiffre d'affaires. À la fin de l'année, ça crève le monde. Okay ? Il y a même qui se suicident au travail avec ces objectifs-là. Est-ce que nous voulons faire la même chose ? Non. nous voulons suivre notre maître. Amen. Donc pour cela, nous avons des outils, un torrent qui purifie. Nous avons le livre blanc, pour ceux qui étaient là hier, vous pouvez le lire, qui est un modèle d'organisation pour Foursquare, pour aller dans ce modèle de croissance au niveau national et développer une vision. Voyez-vous, les modèles qui ne sont pas conformes, comme le fraisier, et pas du tout conformes à la Bible, eh bien, elles nous amènent dans des impasses. Il y en a qui aiment les impasses ? C'est jamais agréable de trouver dans une impasse. Vous êtes paumé, vous êtes frustré, vous êtes trompé, vous êtes en échec, vous dites, bah, tiens, je comprends pas, pour moi, je devais y arriver. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans une impasse. Eh bien, ça nous amène dans des impasses. Mais je vous propose pas d'aller dans des impasses, je vous propose d'aller dans des chemins qui vont vous amener vers votre destinée. Amen. Aussi bien sur le plan individuel, sur le plan de votre famille, que sur le plan de l'Église. Allons dans des chemins qui nous amènent vers une destinée que Dieu a prévue pour nous. Amen. C'est ça que je veux pour vous, et que je veux pour l'Église. Et je peux vous dire que nous y sommes, restons-y. Et ne dévions pas de cet aspect de la vision du moutardier qui porte des fruits durables, qui glorifie le Père. Amen. On va prier un instant pour que le Seigneur nous aide à garder le cap, de rester dans la croissance que le Seigneur nous a appris. Seigneur, nous te louons parce que en toute chose, tu nous apprends. Seigneur, à agir comme nous devons le faire dans le royaume. Et Seigneur, tu nous as donné cet exemple du grain de sénevé, du grain de moutarde, et qu'il devient un arbre où même les oiseaux du ciel vont venir, Seigneur. Ce n'est pas, bien sûr, spectaculaire pour le monde, parce que le monde ne voit pas les valeurs spirituelles, mais nous, pour nous, c'est important de voir des familles, des vies restaurées, des hommes et des femmes qui sont changés par la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ce témoignage que nous avons eu hier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. C'est le fruit, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Et nous voulons que cette année encore, nous puissions aller plus loin dans ce domaine, que nous puissions changer encore davantage nos cœurs et vraiment, Seigneur, aller dans la croissance que toi tu veux pour nous, Seigneur. Une croissance de qualité, qui est durable, Seigneur, et qui dure pour la vie éternelle. Seigneur, nous te le demandons, et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, dans cette Église, au nom de Jésus. Amen. Amen.